Amis de Radio Occitanie et de la poésie, bonjour, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Alors nous vous rappelons que le printemps des poètes a lieu à Toulouse du 11 au 31 mars, comme dans toute la France, et que à cette occasion, l'Académie des Jeux Floraux offre des animations donc pendant cette période, dans un mouvement qui s'appelle Poésia, donc, et dont vous pouvez trouver le programme sur notre site, les poètes tout attachés sans accent .site, S-I-T-E, ou sur le site tout simplement aussi de l'Académie des Jeux Floraux. Alors vous y retrouverez là le programme des rencontres, des expositions, car il y aura aussi des expositions, des projections et de concerts donc de ce mouvement Poésia qui aura lieu lors du printemps des poètes, donc du 11 au 31 mars 2026. Le premier événement, eh bien, c'est Bruno Ruiz, le poète et chanteur Bruno Ruiz, qui ouvrira donc le bal le mercredi 11 mars à 19h à l'hôtel d'Assesa, avec un spectacle appelé Ars Poetica, qui est une continuité poétique donc des différents artistes, mainteneurs ou maîtres à jeu de l'Académie des Jeux Floraux, donc à partir de fragments des œuvres donc de une trentaine de poètes vivants, ces mainteneurs et ces maîtres à jeu de l'Académie. Bruno Ruiz donc va proposer une continuité poétique et qui, selon la thématique d'un Ars Poetica, va mettre en résonance donc les œuvres de l'ensemble de ces artistes qui font partie donc de l'Académie des Jeux Floraux. Alors il vous faut vous inscrire sur le site de l'Académie des Jeux Floraux. Il faut vous inscrire. La réservation est obligatoire. Mais bien entendu, tous ces spectacles sont gratuits. Voilà, nous vous parlerons des animations suivantes, donc la semaine prochaine. Mais retenez cette date, mercredi 11 mars à 19h, et réservation obligatoire auprès de l'Académie des Jeux Floraux. Donc il faut aller sur le site Jeux Floraux pour pouvoir réserver. Aujourd'hui, je vais d'abord faire une annonce d'un livre qui est un livre très important sur lequel je reviendrai peut-être certainement même de façon beaucoup plus profonde. C'est un livre publié par les éditions Gallimard dans cette collection Les Cahiers de la NRF qui reprend, et il s'agit donc d'un très bel ouvrage sur Jo Bousquet. Jo Bousquet, donc ce poète qui a vécu à Carcassonne, je suis allé récemment d'ailleurs me recueillir un peu dans cette chambre de Jo Bousquet. J'essaie d'y aller assez régulièrement, car vraiment, c'est l'âme quand même de notre Occitanie, de notre poésie en Occitanie. Alors, il s'agit d'un livre très intéressant, puisque ce livre donc qui fait référence donc à Jo Bousquet, ce sont les lettres que Jo Bousquet a écrites à son ami Jean Cassou des années 1930 à 1950, l'année de sa mort, à Jo Bousquet. Alors c'est une édition qui a été donc copieuse, c'est un gros livre, ce sont des gros cahiers, il y a combien de pages, donc c'est vraiment, il y a toute cette correspondance qui a été réunie dans ce gros volume de près de 400 pages, 391 pages, plus ce qui suit, donc 391 pages. C'est une édition donc établie par Dominique Barra et Hubert Schiffolo, avec Hubert Schiffolo qui va en faire d'ailleurs l'avant-propos. Et la préface sera de Jean Cassou lui-même. Alors Jean Cassou, Il a sa statue maintenant ici chez nous à Toulouse, heureusement, près de sur les allées Mistral, hein, une très belle statue. Et il fait partie intégrante donc des personnages historiques de Toulouse, à la fois pour la résistance, bien sûr, hein, mais également sur le plan littéraire, et puis parce que ça a été quand même quelqu'un qui a fait énormément pour le patrimoine de notre nation. Alors, entre 1930 et 1950, Jo Bousquet, souvenez-vous de Jo Bousquet, hein, il est blessé à la guerre de 14, et il se retrouve, après un petit séjour sur le front et dans un établissement militaire, son père décide de le rapatrier, de le ramener à Carcassonne. On se demande maintenant si ce n'est pas ce rapatriement à Carcassonne qui a accentué sa blessure, puisque il va se retrouver donc paralysé à partir du bassin. Alors Jo Bousquet, donc sur son lit, ne pouvant plus bouger, va entamer une aventure littéraire, une aventure poétique, absolument unique certainement dans les annales quand même de la littérature, avec cette densité et avec ce succès, avec ce génie. Et donc entre 1930 et 1950, donc sur ce lit à Carcassonne de la rue de Verdun, il faut visiter le centre Jo Bousquet, d'abord parce qu'il y a des animations qui sont des animations formidables, souvent gratuites, absolument gratuites. Il faut saluer des villes comme ça, hein, qui font beaucoup pour la poésie et sans faire trop de bruit, hein, et qui entretiennent cette flamme donc de cette maison de mémoire de Jo Bousquet, maison de mémoire où il faut aller aussi, il faut aller voir ce lit où s'est créée donc cette œuvre de Jo Bousquet, tout ce qu'il a pu écrire, et ses correspondances, cette extraordinaire correspondance, et en particulier donc ses lettres à Jean Cassou, donc qui a été ce grand résistant et qui a été emprisonné à la prison Saint-Michel ici à Toulouse, hein, quand la prison Saint-Michel était évidemment en service pendant ces heures sombres de la Deuxième Guerre. Donc entre 1930 et 1950, Jo Bousquet, il va envoyer une centaine de lettres à Jean Cassou. Et ils étaient nés d'ailleurs, Jean Cassou et Jo Bousquet, ils étaient nés la même année, en 1897. Donc imaginez Jo Bousquet, qui était immobilisé dans ce lit, dans cette chambre que l'on peut visiter, pour lequel moi je vais régulièrement d'ailleurs, comme un pèlerinage, je vais me recueillir très souvent à Carcassonne, et je ne manque jamais, quand je suis à Carcassonne, d'aller à ce centre Jo Bousquet et à stationner un petit peu, à me recueillir, à méditer devant cette chambre, devant ce lit, qui a été le témoin de tellement de choses, de tellement d'artistes qui sont passés dans cette chambre, et de tellement de génie de ses visiteurs, bien sûr, mais génie aussi de Jo Bousquet. Donc il était là, dans cette célèbre chambre de Carcassonne, donc depuis la blessure qu'il avait reçue donc en 1918, et Bousquet, il va raconter à Jean Cassou, il va raconter ce qu'il est, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un homme, une fois qu'il a perdu cette faculté de ressentir son corps, qu'il est donc prisonnier, qu'il ne peut pas bouger, qu'il est immobilisé sur ce lit de souffrance, mais qui garde tout son génie intellectuel, bien entendu, absolument intact, et même c'est cette absence de corps qui va donner à Joe Bousquet la faculté de pouvoir vivre en littérature, de créer une œuvre. Alors, Joe Bousquet, et en 1930, il s'adresse à Jean Cassou, mais Jean Cassou, à cette époque-là, c'est qui ? Ben, c'est un jeune conseiller des éditions, les éditions Fourcade, c'était des éditions nouvelles hein, qui étaient en train de naître. Mais il était éditeur, donc, et donc un éditeur qui commence, c'est un éditeur qui est aux prises avec des difficultés financières. Et c'est le drame de Joe Bousquet qui écrit, commence à écrire, a compris que sa vie, ce serait ça, et que ce ne serait certainement pas autre chose, qu'il ne peut pas avoir autre chose que ça, mais que en même temps, c'est un tout considérable. Et il va falloir, bien entendu, pour que ce tout considérable prenne son sens, il va falloir trouver des lecteurs. Et sinon, ben, ça serait un peu absurde. Donc, il faut faire paraître les œuvres. Et donc, il va s'adresser, bien sûr, à l'éditeur qui est, à ce moment-là, Jean Cassou. Et donc, il va lui raconter ses déboires pour faire paraître ses œuvres. Hein. C'est toujours très difficile de faire paraître des œuvres. C'est un petit peu comme vouloir entrer dans un œuf qui est plein. Il faut quand même y rentrer. Personne ne vous attend, personne ne vous demande. Hein. Et il faut quand même arriver à forcer pour cette coquille, pour entrer dedans, alors que personne ne croyait pas. Personne, évidemment, ne vous attend et surtout, très souvent, ne vous fait la place. Alors, ce drame-là, de faire paraître ses œuvres, il va le raconter à Jean Cassou. Et Jean Cassou va l'écouter. Il faut dire que la situation de Bousquet est une situation quand même insolite et qui ne peut que attirer à la fois la compassion, bien sûr, mais aussi l'admiration devant ce que cet homme blessé, qui n'était pas d'ailleurs certainement sans cette blessure, n'aurait certainement pas fait une œuvre littéraire, certainement pas. Mais c'est là cette prise de conscience, cette immobilité, cette confrontation à lui-même qui a fait que Joe Bousquet s'est révélé et va se révéler un élément extraordinairement puissant de la littérature du XXe siècle. Alors, peu à peu, les deux compères, là, deviennent amis. Et Jean Cassou, avec Jean Cassou, Joe Bousquet, il va évoquer les surréalistes hein, qu'il a accompagnés. Et surtout, il va évoquer l'amitié de Paul Éluard. Alors, c'est un homme très actif, Bousquet, à Carcassonne, dans cette chambre. C'était une chambre salon, hein, c'est là vraiment où on causait. Hein. Bousquet, il s'est constitué un groupe de fidèles amis, ses amis littéraires à Carcassonne. Hein. Il fallait passer par Carcassonne. C'est devenu très vite, il a fait en sorte que ce passage à Carcassonne pour les artistes devienne un rituel et un passage obligé, bien entendu. Et on va trouver là Jean Missler, par exemple, qui sera un des fidèles amis littéraires donc de Joe Bousquet à Carcassonne. Mais Joe Bousquet va être aussi attentif. Il y a une réciprocité, c'est-à-dire qu'il n'est pas enfermé, loin de là. Je crois d'ailleurs que c'est ce qui a fait l'incendie de ce génie de Joe Bousquet, ce qui a incendié vraiment le génie de Joe Bousquet, c'est cette faculté aussi de lire et d'écouter l'autre. Ce qui manque beaucoup souvent aux poètes quand ils ont trouvé ce qu'ils avaient à dire, etc., ils deviennent un peu indifférents, indifférent à autrui, dans un en repli sur eux-mêmes, souvent les poètes. Mais Bousquet, non, jamais il ne va se replier sur lui-même. Il va toujours entretenir le dialogue. C'est un dialogue permanent avec les autres, avec tous les artistes qui viennent. Et il va se nourrir toujours de ce dialogue. Il va l'alimenter en permanence, ce dialogue, parce qu'il va être donc attentif aussi à l'œuvre de son ami Jean Cassou, qui écrit, et il va saluer même son premier livre, Jean Cassou, Les Mémoires de l'Ogre. Et alors Jean Cassou, il devient ensuite inspecteur à la fin de la guerre, bien entendu, hein. Après ses faits d'armes, résistance, les sonnets de la résistance, et vous savez qu'il a écrit ses sonnets de mémoire à la prison Saint-Michel, hein. Il faut lire, hein, les sonnets de Jean Cassou, hein. Alors Jean Cassou, il devient inspecteur des monuments historiques, hein, et il va continuer quand même, alors que là, ça y est, il n'est plus dans le monde de l'édition, mais il a toujours ses amis là dans le monde de l'édition, et il va continuer quand même à aider Jo Bousquet donc dans cette recherche difficile de trouver des éditeurs. Alors Bousquet, qui était le pape à cette époque-là de la NRF, la NRF édition Gallimard, qui sait, eh bien à cette époque-là, qui sait, un personnage considérable, c'était Jean Paulhan, bien sûr, Jean Paulhan, hein. Et il veut avoir donc l'aval, hein, le soutien de Jean Paulhan. Il faut se faire remarquer auprès de Jean Paulhan, et puis de Jouandeau aussi, pour le roman qu'il avait écrit, Jo Bousquet, Le rendez-vous d'un soir d'hiver. Et en 1936, il va publier son roman, La tisane de Sarment. Alors ça, c'est peut-être un des romans qui est le plus connu quand même de Jo Bousquet, La tisane de Sarment. Et là, on va retrouver les sarments, hein, chers aux vignes, donc de ce paysage d'Aude, qu'il connaît bien. Et ce livre va être publié donc chez De Noël. Mais ce n'est pas tout de publier. Il faut aussi qu'il soit lu, et qu'il soit lu surtout par les critiques. Eh bien, les critiques, ça démarre difficilement. Il n'est pas connu avant. La presse va être assez... Alors qu'à cette époque-là, quand même, la presse rend compte d'une façon continue, hein, des publications. Ben, la presse ne va pas s'emparer de ce livre et ne va pas retracer donc des critiques et des articles donc sur ce livre, La tisane de Sarment. Et donc il va falloir attendre 1939 pour que Jean Paulhan vienne le voir. Il s'est déplacé à Carcassonne et il va lui faire une proposition. Eh bien, tout simplement, il va lui proposer d'écrire des critiques dans la NRF. Donc, il dirigeait Jean Paulhan à ce moment-là. C'était important, les critiques dans la NRF. Il y avait beaucoup de lecteurs. Et c'était une chance qu'il donnait là à Jo Bousquet. Et pendant la guerre, Bousquet, qui s'est inquiété de Cassou, emprisonné pour fait de résistance, il va préparer alors les poèmes de Connaissance du soir. Alors voilà, si les auditeurs qui nous écoutent n'ont pas lu les poèmes de Jo Bousquet, il vous faut aller chez votre libraire, acheter Connaissance du soir. Alors c'est un livre de poche dans la collection Poésie Gallimard, un livre de poche, et là vous avez déjà les poèmes de Jo Bousquet. Donc une fois Jean Cassou libéré, Jo Bousquet lui écrit, alors il lui écrit ses réflexions sur la mystique, sur la vie intérieure, sur le réel. Alors ce sont quand même des lettres d'une haute volée, une haute volée littéraire, une haute volée spirituelle, une haute volée culturelle. Et il va lui écrire également, dans ses lettres, il va lui dire sa haine du désespoir. Et ça, c'est merveilleux quand même. Imaginez cet homme, donc condamné à l'immobilité dans une chambre, ayant tout perdu alors que c'était quelqu'un qui aimait terriblement la vie, qui aimait les femmes, qui était un peu voyou sur les bords, hein, Joe Bousquet, avant sa blessure, eh bien, il va lui dire sa haine du désespoir. Une magnifique leçon de vie que nous donne Don Joe Bousquet, tout en revenant, bien entendu, sur ses souffrances quotidiennes. Il ne peut pas les taire, ses souffrances. Mais la dernière lettre de Joe Bousquet à Jean Cassou, c'est une lettre qui date de juillet 1950. Or, Joe Bousquet meurt quelques mois après, il meurt en septembre 1950. Donc en juillet, donc quelques temps peu avant sa mort, il lui écrit une dernière lettre. Et or, donc ce sont ces belles lettres d'amitié, donc de littérature, comme je vous disais tout à l'heure, que celle adressée par Joe Bousquet, qui signe, au bout d'un moment, il va signer « Ton frère Joe ». Jouer. Je ne sais pas s'il fallait dire jouer ou jouer, comment il s'appelait, lui. Et avec ces textes, il va devenir une figure importante des lettres, de l'art et de la résistance. Et Jean Cassou a publié de nombreux textes quand il entre en contact avec Bousquet, mais lequel débute en littérature. Ils avaient le même âge, mais l'un avait un peu d'avance sur le plan littéraire. Alors, Jean Cassou, lui, il est mort en 1986. Et il a eu une belle vie, hein. Il a eu une très riche carrière de conservateur de musée, Jean Cassou. Et c'est lui-même qui a écrit la préface à l'édition de 30 lettres à Jean Cassou, qui avait été publiée par l'ami Rougerie. On ne dira jamais assez de bien sur Rougerie, qui a publié aussi Joe Bousquet. Il faudra peut-être un jour que l'on fasse une émission sur aussi ce qu'a fait Rougerie pour Joe Bousquet, hein, en 1970. Voilà, alors moi j'ai ces éditions, hein, de 1970, et là j'étais très heureux de retrouver ça. Donc, chez Gallimard, bien entendu, bien augmenté, puisqu'il y a 77 lettres de plus de ces 30 lettres-là que j'avais lues, moi, grâce à Rougerie, hein, qu'on connaissait bien, hein, Rougerie. Tous les poètes connaissaient, bien entendu, Rougerie à cette époque-là, des années 70. Je l'ai reçu même ici, à la radio de... je l'ai reçu en 81, Rougerie, ici. Et il avait écrit deux livres, dont un assez vert et un autre pour fustiger Jacques Lang, qui avait mis en œuvre la journée des poètes, hein, la journée des poètes, comme il y avait eu la journée de la musique. Il avait mis donc la journée des poètes, la fête des poètes, et alors il avait écrit un livre s'appelait Rougerie, la fête des ânes, en parlant de ce qu'avait fait donc avait fait Jacques Lang. Et on a eu pas mal de commentaires, je me souviens, sur cette émission qui avait été faite ici, donc, dans ces années 80. Voilà, donc on a ajouté ces 77 lettres inédites, hein, et ce qui est merveilleux d'ailleurs de pouvoir avoir accès à cela. Merci à Gallimard, hein, merci donc à Dominique Barra, à Hubert Schiffolo qui a signé l'avant-propos, Et on va retrouver donc dans toutes ces lettres d'amitié intellectuelle, c'est important ça, parce que ça permet aussi, ces lettres, de mieux situer, de mieux cerner le paysage mental, qui est un paysage mental absolument fascinant quand même, hein, de Jo Bousquet, parce que imaginez la force d'âme de cet homme sur son lit, qui recevait d'ailleurs les femmes, venaient le voir, il y avait une espèce d'adulation, hein, des femmes, souvenez-vous de Lettre à Poisson d'Or, moi j'ai connu Madame Augier, qui a fait un livre d'ailleurs sur les demeures de Jo Bousquet, qu'elle m'avait offert, Madame Augier, qui était l'égérie là de Jo Bousquet, et avec laquelle il y avait une espèce de fascination, qui était aussi une fascination littéraire, mais aussi érotique, hein, de... Là, entre eux. Voilà. Donc, on a ce paysage mental fascinant de Jo Bousquet à l'œuvre, notamment donc, dans son récit journal qu'il a appelé « Traduit du silence ». Voilà. Alors, je vais vous lire peut-être un extrait. oui, la préface quand même, elle est longue. Elle est longue, mais effectivement, elle est intéressante. Bon, je vous lis donc un extrait. Tout le génie poétique de Jo Bousquet, c'est Jean Cassou, hein, qui parle, formé des circonstances diverses dont il me faisait au cours du temps en confidence, tout cela qui était la fraîcheur, le parfum de ses lettres, qui palpitait dans ses lettres. Je le retrouvais dans les livres, et essentiellement leur langage. Langage précieux et labyrinthique, éblouissant par ses obscurités, se retournant sur lui-même, se créant de toutes les négations qui lui sont imposées, de toutes les plénitudes dont il est frustré, de toutes les évidences qui lui sont autant de manques. Langage qui est de même angélique nature que celui des compatriotes de Bousquet. Alors, c'est important ce qu'il dit là, Jean Cassou. Les compatriotes de Bousquet, c'est qui? Bien, ce sont les troubadours, avec les transcendances, antilogies de leur pur amour. Voilà. C'est ce dont je parlais tout à l'heure avec Ginette Augier. Cet amour troubadouresque, qu'il avait avec les dames, dont elle, bien sûr, Lettre à Poisson d'Or. Donc, il est là, dans la tradition de l'amour courtois, du fin amour, du pur amour, mais aussi dans la tradition de l'amour aussi impossible. Voilà. Il y a une continuité de chez Jo Bousquet avec l'érotique des troubadours. Ces lettres donc de Jo Bousquet, nous dit Jean Cassou, elles sont le premier effort de son écriture pour révéler la part irréductible de ce qui lui reste de lui-même. Cette part, eh bien, il va falloir la sauver, il va falloir la rendre aussi belle que le mouvement et que la lumière, nous dit Jean Cassou. Et on va voir que Jo Bousquet y réussit. Alors, je vais prendre, dans le temps qu'il nous reste, je vais prendre peut-être des lettres plus anciennes. Pas les premières. J'en profite d'abord pour dire que véritablement, tous les amateurs de Jo Bousquet doivent impérativement avoir chez eux cette publication, avoir chez eux ces lettres à Jean Cassou, donc publiées par Gallimard. Hein. Je vais lire donc une lettre qui date certainement de 1934. d'août. Alors, elle est datée Villalier 1er août, et on pense que c'est le 1er août 1934. Elle est adressée au 53 rue de Rennes et renvoyée à Monessier de Clermont, c'est dans l'Isère. Donc, c'est donc Jo Bousquet qui s'adresse à Jean Cassou. Mon cher ami, comme tous les ans, je t'écris au milieu des mâles, à la veille même de partir pour la Franquie. Il avait une, je fais une parenthèse, Jo Bousquet avait une demeure là, d'apprenti, c'est une demeure qu'il avait héritée de son père, hein, son père qui avait c'est la bourgeoisie audoise, hein, et qui avait une belle demeure à la Franquie. Et souvent d'ailleurs, quand je passe devant cette maison de Jo Bousquet, bien entendu, je jette toujours un coup d'œil et je pense toujours aux vacances que passait là Jo Bousquet. Je reprends la lecture. Il y a 2 ans, c'était le jour. Je me trouvais dans la prairie, t'écrivant sur mon genou. L'année dernière, il brunait. Je me trouvais dans un hall peuplé de statues de pierre. Cette année, il est tard dans la nuit, le silence est partout, l'eau ne coule plus et le vent même s'est tu. Une de ces nuits écrasantes, sans doute, qui présage une chaleur terrible pour demain. Tu sais bien, la belle chaleur que tu aimes. J'en suis sûr. Comme moi, pour la sensibilité qu'elle prête à tout, tirant des forces de notre cœur pour les donner aux pierres mêmes, semble-t-il, qui font un cri si on les heurte. Je crains l'éveil de départ. Tout est organisé pour mon absence. Le silence qui est sur moi est le silence des choses. Un sommeil dont ma parole même ne saurait plus l'étirer. Je ne suis plus ici. Je ne suis pas là-bas. Toi seul, mon très cher ami, es irréel dans cette nuit, car je sais où te prendre pour te demander de me faire un peu vivant. Non pas même jusqu'à demain, jusqu'à mes rêves, qui vont s'ouvrir dans peu d'instants, car ce sont mes rêves qui m'endorment, et je sens de plus en plus qu'ils ont commencé avant que je ne ferme les yeux. J'achève un dur, difficile article sur Pierre-Jean Jouve. J'ai hâte de le voir dans les cahiers du Sud, et de pouvoir l'imaginer sous tes yeux, car je suis sûr que tu y trouveras des choses que tu as pensées, que tu as senties, que j'ai sans doute souvent pensées, en me souvenant que tu étais mon ami et en allant au fond du bonheur, que cette nouvelle est, à chaque minute de ma vie, susceptible de m'apporter. Par une conséquence naturelle, tu y verras, je crois, mon effort pour être moi, prêter un accent particulier à des lignes écrites à l'occasion, et souvent sur tes livres. Tu verras, au fond de quelle conception du monde, mon désespoir à moi entend faire régner le néant, et à quel espoir peut-être mon attitude ainsi se suspend. Laissons. Je t'écrirai de la Franquie. Donne-moi de tes nouvelles. Ta dernière lettre m'a donné du cœur. Je suis à toi de toute ma plus vivante affection. Jo. Alors, quand il parle de ce difficile article qu'il est en train d'écrire sur Pierre-Jean Jouve, c'est à la suite d'une parution au Cahier du Sud, alors là on est en février 1935, de Lumière, infranchissable pourriture, donc de Pierre-Jean Jouve. Hein. Voilà, c'est sur cela qu'il écrivait. Alors vous voyez le ton de la lettre. D'abord, il y a deux choses magnifiques. D'abord, c'est l'amitié. C'est magnifique quand même, c'est une amitié comme ça. c'est quelque chose de magnifique. Et puis, il y a le fait de reconnaître en l'autre la qualité de l'autre. Et cette qualité, sans la moindre jalousie, sans la moindre, vraiment, en s'en réjouissant, et ça, c'est aussi quelque chose qui signe les grandes personnalités, les personnalités les plus nobles. Et il y a aussi quand même le désespoir. Quand il dit « Tu verras au fond de quelle conception du monde mon désespoir à moi entend faire régner le néant. » C'est une phrase terrible, ça, quand même. Hein, son désespoir qui entend faire régner le néant. Voilà. Mais immédiatement après, il y a une phrase qui rachète tout ça, puisqu'il dit « Et à quel espoir, peut-être, mon attitude ainsi se suspend ?» C'est-à-dire que, oui, effectivement, il est entraîné par le néant du fait de ses souffrances, de cette vie immobile, de ce qui lui est arrivé, de cette blessure qu'il a clouée sous un lit, qui lui a empêché de vivre comme tout le monde, et qu'il a condamné à avoir une vie spirituelle intense, immense. Mais cette vie spirituelle, bien entendu, elle, dans un premier temps, elle lui apparaît comme un pis-aller. Mais après, il dit, attention, à quel espoir peut-être mon attitude ainsi se suspend, c'est-à-dire que cette vie spirituelle, cette vie en littérature, eh bien, va être l'espoir. En définitive, c'est quasiment son seul espoir, et il va, comme il dit, se suspendre à cet espoir. Et c'est ça qui fait Jo Bousquet. C'est cet homme qui se suspend à l'espoir, alors que tout peut être l'entraîner vers le contraire, il va se suspendre à l'espoir, grâce à l'extravagante force que lui donne l'amitié, et en particulier l'amitié de Jean Cassou, un homme aussi d'une très très grande noblesse. Voilà ce qu'il écrit à la Francky le 23 août 1934. Mon cher ami, le journal des poètes arrive au dernier courrier. Comme je me prépare à quitter le bord de la mer pour revenir à Villalier. Donc c'est ça, son autre demeure. Hein. Alors, le journal des poètes, c'est quoi? Alors, le journal des poètes, à cette époque-là, c'est une revue bruxelloise hein, qui a duré longtemps, hein, qui a été créée en avril 1931 et dont le slogan était... Et c'est un slogan qui a été repris, repris et repris. Poètes de tous les pays, unissez-vous. Bon. Ils ont changé poète, mais bon, c'est un slogan qui allait. Hein, poètes de tous les pays, unissez-vous. En août 1934, Jo Bousquet y publiera Iris et Petite Fumée, des fragments, hein. Et des extraits de « Il ne fait pas assez noir ». Et puis, il y publiera également « Rendez-vous d'un soir d'hiver ». Alors, un des animateurs de la revue fut le poète et le prosateur aussi, chrétien, hein, qui est Pierre-Louis Flouquet, qui inaugura en fin 1935 une publication trimestrielle qui s'appelait Le Courrier des Poètes, ainsi que les cahiers du Journal des Poètes, qui se faisaient l'écho des créations poétiques francophones. Et c'est en janvier 1948 que parut un numéro spécial consacré donc à Jo Bousquet. Donc 1948, bon, c'est l'année de ma naissance, donc, et là, il va y avoir un numéro spécial qui est consacré à Jo Bousquet, qui mourra 2 ans plus tard. Alors, je reprends la correspondance. J'avais une grande hâte de lire ta page d'introduction, et je n'ai que le temps de te dire combien son accent m'émeut et à quel point elle sonne juste dans mon cœur. Tu le verras en lisant « Lumière infranchissable pourriture hein, » dont je parlais tout à l'heure. un long article qui paraîtra bientôt au Cahier du Sud, et où je me découvre plus que d'habitude. Il est étonnant que sans communication autre qu'affectueuse, de telles profondeurs communes se révèlent dans ton intuition et dans la mienne. Mon très cher ami, je ne saurais jamais te dire avec quelle sûreté tu interviens toujours pour me donner l'impulsion qu'à un moment donné il me fallait. Cette fois encore, ce numéro est tombé sur un homme qui avait plus que jamais besoin de te sentir à son contact, vivre, de te sentir vivre avec toute ton intensité et toute ta force au contact de ce cœur qui le trahit si souvent et qu'il faut bien qu'il voie le meilleur de ses amis lui rendre parfois. Ton ami, très affectueusement tien, Jo. Voilà, donc on voit tout de suite à quel point vraiment l'amitié a été la nourriture, hein, ce qui a permis évidemment à Jo Bousquet de poursuivre cette œuvre difficile. Je vais peut-être terminer par une lettre un peu plus longue. Alors, il s'agit d'une lettre qui a été adressée de Carcassonne le 1er novembre 1934. Mon cher Cassou, tu recevras mon livre. Alors, le livre en question, il s'agit du livre « Une passante bleue et blonde ». C'est un livre qui a paru en janvier 1934. Et Jo Bousquet rédigera une note sur ce livre en décembre 1934 dans un journal qui s'appelait L'Aude à Paris. Mon cher Cassou, tu recevras mon livre en même temps que cette lettre. Tu verras que le titre est changé. Je ne suis pas sûr que le choix soit heureux si le changement fut vraiment nécessaire. Maintenant, je t'écris ces quelques lignes car par ce jour bien triste qui a l'avantage de parquer les carcassonnés dans les cimetières, et on est le 1er novembre, hein, et de faire un peu le vide autour de moi. Je n'ai jamais eu tant besoin de repos, et l'effort même de bavarder avec des gens tout à fait étrangers à moi me coûte de longues insomnies. Mon été a été mauvais, si mauvais que j'ai fini par supprimer toutes les drogues qui achevaient de me détériorer, et que je souffre maintenant des conséquences d'une rupture brusque avec des habitudes agréables. Ajoute à ça un accident qui, comme l'année dernière, à pareille époque, m'a pourvu d'un phlegmon au pied gauche. Et tu me verras sans doute, au bout de ton regard, tel que je suis, m'aplatissant, si maigre, que mes amis ne peuvent s'empêcher de penser à haute voix devant moi. Mais il faut s'arrêter de maigrir. Ce ne serait rien si cette faiblesse n'était pas à peu près insurmontable quand il s'agit d'écrire. Ah, fais des vœux pour que cet hiver me redonne un peu de courage. Avant même d'achever Iris et Petite Fumée, j'ai commencé un conte. Alors, il s'agira, ce conte, Jo Bousquet cherchera toute sa vie, le conte parfait. Il voulait trouver un conte parfait qui confondrait le langage poétique et les faits, ce qui advient, les événements, ce qu'il appelle, lui, réalisme magique. Et on pourra lire avec profit Le Roi du Sel, donc ça paru chez Albin Michel 177, ou encore Le Cahier Rabanne 2, ça sont des œuvres romanesques complètes, chez Segers en 1969. Je reprends la lecture de la lettre et je te l'écris avec l'étonnement de le trouver très clair et riche de sous-entendu que je n'avais certes pas pensé à y introduire. Je voudrais l'avoir achevé bientôt, te l'envoyer, me trouver déjà cette minute où j'attendrai ta lettre. Car il me semble que tu me parleras avec des mots nouveaux d'une œuvre nouvelle. Mais il faut trouver avant tout l'équilibre que j'ai perdu. Si je n'étais pas malade, tu sais que c'est ma folie la plus caractéristique de me fourrer toujours dans des aventures que la vie à Carcassonne fait tout à fait épineuse et que mon état de sédentaire et de malade rend vite insoluble. Je ne tarde pas à me trouver dans une atmosphère irrespirable, exaspéré contre l'univers entier, contre moi-même, certain que je suis une fois de plus la dupe d'un moi sans emploi, dont ma blessure m'a supprimé, que les possibilités d'action. Imagines-tu ce que c'est que de se connaître sous un certain angle, comme un pur appétit, appétit qui ne peut se satisfaire qu'au détriment de l'idée que je suis moi, que je suis fort de mon désir. Je n'ai de réalité que dans la mesure où je vois les choses de loin. Et si je donne suite à mon désir d'écrire des contes, tu verras sous quelle forme ils apparaîtront, montrant les hommes et les plantes et les bêtes à l'extrême horizon d'une voix exténuée, avec des « il y avait » et des « envoyés », d'hommes aveugles et d'hommes glacés. Mais tu comprends que ce jugement de valeur, forcément de valeur, n'entre pas le moindre mouvement de dépit. Il ne s'agit pas pour moi que d'écrire juste, de me prolonger dans ce que j'écris, de mettre dans ce que j'écris une réalité qui fasse reculer la mienne. Et je veux bien qu'aux yeux des autres, cela doive rester lettre morte. Si quelques très rares hommes au premier rang desquels tu es me confirment que ce que j'écrivais coulait de source et que ma parole était bien le contenu de mon âme, de l'invisible que je parvenais à rendre concret. C'est là toute mon obsession maintenant. Je voudrais mieux l'analyser, la rendre plus communicable. J'ai cru d'abord qu'il fallait arriver à faire le temps prisonnier, à le lier mieux au battement de notre cœur, à réintégrer par une vigilance perpétuelle tout le mouvement de notre vie dans le progrès de notre conscience. Ce n'était que sur ce plan que pouvait s'opérer l'identification du subjectif et de l'objectif. On ne pouvait arriver que par là à rendre un homme égal à sa destinée, quelle qu'elle fût, et par là indifférent à la teneur matérielle de sa destinée. Puis j'ai compris que cette ambition était trop haute, qu'elle faisait peu de cas de la condition humaine qui veut que toute créature soit vécue par les autres, par des idées qui la dépassent. Je ne crois pas qu'un quelconque retour à Dieu se cache là-dedans. Étranger comme je le suis à l'idée de Dieu, je rêve tous ces temps-ci et c'est abominablement burlesque que des curés me pressent de croire et que je les somme de me fournir des preuves en faveur de l'existence de Dieu et je leur sers cet absurde argument d'un homme endormi. Vous comprenez, je voudrais être sûr que Dieu existe pour pouvoir le traiter de con. Mais revenons un peu plus haut. S'il m'a paru vain de poursuivre un but trop haut pour moi, si au terme de cette identification cherchée par moi du logos et de la psyché, et sur le plan théorique trouvé, énoncé par la phrase « Mon temps n'est pas à moi », je n'ai trouvé que ma faiblesse, ma révolte devant une idée de Dieu nécessaire, et en tant qu'infumable, condamnant toute ma pensée, si je me suis trouvé aussi nul que l'idée même de néant, une autre forme de nécessité devait s'éclairer autour de moi, mieux servir, me semble-t-il, des projets de malade. Elle apparaît sous sa forme la plus habituelle comme un besoin de restituer. Et je voudrais sentir, toujours comme ces jours-ci, que ce que je porte en moi de plus déroutant, de plus incroyable, cela justement n'est pas à moi, et qu'il faut le donner à tous, pour qu'ils m'appartiennent, le rendre clair lui donner une forme durable qui me sépare de lui et me donne enfin la liberté de mourir par l'intermédiaire de la transparence que j'aurai retrouvée. Je ne voudrais pas abuser de ta patience, comme on abuse ici de la mienne depuis que j'ai moins de défense. J'écris mal. Je sens que j'écris mal. Je te quitte pour mettre au courant mon courrier, hélas, tellement en désordre. Je t'embrasse affectueusement, ton grand ami, Jo. Voilà. Alors, une lettre excessivement parlante, enrichissante. D'abord, sur les habitudes de Jo Bousquet, ses addictions. Addiction à la drogue, hein, et la drogue, l'opium par exemple, et la drogue qui lui était aussi indispensable pour surmonter ses douleurs permanentes, ce que c'est que d'être immobile sur un lit et en souffrance. Bon, certes, on peut s'évader par l'esprit, par la création littéraire, par la spiritualité, mais si la souffrance est forte, cette souffrance, elle accapare, elle empêche tout le reste. Donc, il y a ce recours à la drogue. Et on apprend là que, eh bien, il s'est sevré lui-même. Il s'est sevré lui-même, donc c'est difficile, certainement. Il faut là aussi une volonté terrible. Hein. Parce qu'il dit, mon été a été mauvais, si mauvais que j'ai fini par supprimer toutes les drogues qui achevaient de me détériorer, parce que il sait aussi que ces drogues qui vont lui apporter un soulagement ponctuel finissent quand même par avoir un effet, à terme, un effet terriblement toxique, terriblement négatif. Voilà. Et puis, il y a cette... quand il parle de Dieu, il a une phrase là, qui est terrible quand même. Je leur sers cet absurde argument, il parle donc au curé qui vient de le voir, je leur sers cet absurde argument d'un homme endormi. Vous comprenez, je voudrais être sûr que Dieu existe pour pouvoir le traiter de con. Bon. Alors, cette phrase, elle est exactement la même phrase. Et je suis persuadé d'ailleurs que, bien entendu, Francis Jock, un poète maudit, hein, Francis Jock, poète qui s'est suicidé. Donc j'ai parlé, je pense, il y a des années sur cette radio aussi, Francis Jock, un très grand poète, hein, qui était aussi enclin à la souffrance, il avait des aliénations psychiatriques assez ponctuelles, assez terribles. Et il disait, j'espère que Dieu existe, c'est une phrase qui est parallèle à celle-là, j'espère que Dieu existe pour pouvoir lui cracher à la gueule lorsque je le verrai. Voilà, c'était une phrase terrible. Hein. Et c'est un peu ce que dit Jo Bousquet, la même chose, le ressentiment, donc comment, si Dieu existe, comment et ces souffrances-là peuvent-elles aussi exister? Voilà. L'ensemble de ces lettres, donc, est d'une humanité absolument fracassante. C'est à lire, hein, absolument, tout ce qui aime Bousquet, même ce qui... Ça peut être un très bon complément aussi. Il faut acheter Connaissance du soir, il faut acheter aussi peut-être des livres de Rougerie, paru chez Rougerie, et ce livre-là, Jo Bousquet, Lettre à Jean Cassou, chez Gallimard. Ce beau livre, où tu auras la somme de 25 euros. Voilà, ainsi s'achève notre émission. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente semaine à l'écoute de Radio Occitanie, et nous vous disons à la semaine prochaine à 17h.